Donc théologie pratique 5.05, quatrième heure, on va voir donc ce qui se passe dans la vie de Nebuchadnezzar en Daniel au chapitre 4. Alors on va pas, on va simplement entendre le texte, on ne va pas chercher à trop comprendre chez Nebuchadnezzar ce qui peut se passer, parce que c'est un peu compliqué. Je commence la lecture du texte. Nebuchadnezzar, le roi, à tous les peuples, peupla des langues qui habitent sur toute la terre. Que votre paix soit multipliée, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard. Ces signes, combien ils sont grands, et ces prodiges, combien ils sont puissants. Son royaume est un royaume éternel, et sa domination est de génération en génération. Qu'est-ce que j'entends dans ce texte? Nebuchadnezzar est le premier des empereurs, le premier le premier dominateur, le premier despote, et l'empire babylonien est le premier empire. Avant, l'empire assyrien, c'est plutôt un conglomérat de villes, du point de vue politique, alors que l'empire babylonien, c'est vraiment quelque chose de cohérent, et qui va finalement, curieusement, trouver sa place après la chute de Sédécias, hein, puisque Nebuchadnezzar renverse Sédécias. Il y a trois transportations. Et c'est ce que Ézéchiel va appeler le temps des nations. Hein, Ézéchiel 30, verset 3, cette expression qu'on retrouve. Le temps des nations, autrement dit, quand à la chute d'Israël, il y a une nation. En fait, les nations vont finalement vivre devant Dieu quelque chose de politique et qui va être important. C'est le temps des nations, c'est le temps où finalement Dieu ne parle plus par Israël. Et il faut noter avec cette expression de Luc 21-24 le Seigneur dit que le temps des nations finira quand Jérusalem sera foulée aux pieds. Autrement dit, il y a un... C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y aura un moment où ce temps finira et il y a un temps où les nations commencent à émerger. Et qui est-ce qui émerge? C'est justement Nebuchadnezzar. On voit dans Ézéchiel 11 comment la gloire de l'Éternel quitte le temple et comment, en fait, cet homme va être à la tête d'un empire. Et curieusement, c'est de cet homme dont il est question de manière très large, hein, et très détaillée, pour qu'on entende, en fait, et pour qu'il témoigne. C'est intéressant de lire en Daniel 4, il dit « Nebuchadnezzar, le roi à tous les peuples, peupla des langues qui habitent sur toute la terre, que votre paix soit multipliée, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard. » Fantastique. On voit comment cet homme-là, en homme responsable, va faire connaître ce qui s'est passé dans sa propre vie. Mais on imagine aujourd'hui notre président de la République faire ce genre de choses. En fait, c'est très noble de la part de Nebuchadnezzar. Hein, c'est très intéressant. On continue donc la lecture. Il dit, « Moi, Nebuchadnezzar, j'étais en paix dans ma maison et florissant dans mon palais, je vis un songe et il m'effraya, et les pensées que j'avais sur mon lit et les visions de ma tête me troublèrent. Et de par moi fut donné un ordre qu'on amena devant moi tous les sages de Babylone pour qu'ils me fissent connaître l'interprétation du songe. Mais à la fin entra devant moi Daniel, dont le nom est Belteshazzar, selon le nom de mon Dieu, et en qui est l'esprit des dieux saints. Et je dis le songe devant lui, Belteshazzar, chef des devins, puisque je sais que l'esprit de Dieu saint est en toi, et qu'aucun secret ne t'embarrasse, dis-moi les visions du songe que j'ai vu et son interprétation. » Voilà, en fait, la démarche de Nebuchadnezzar. Il fait un cauchemar, hein, il a un rêve qui l'effraye. Hein, il dit, le songe m'effraya, les pensées que j'avais sur mon lit, les visions de ma tête me troublent. Et donc, de manière assez logique, il a mal quelque part. Et du coup, il veut parler de sa souffrance à quelqu'un qui peut le libérer de cette souffrance. Voilà une démarche tout à fait logique. C'est pour ça que j'ai mis ce passage en numéro 1 avec trouble, le titre trouble, et avec la mention clé souffrance. Donc je le reformule parce que je crois qu'il faudra que je le redise souvent. Celui qui fait de l'accompagnement pastoral n'est pas là pour donner des conseils à quelqu'un, n'est pas là pour dire à quelqu'un ce qu'il faut qu'il fasse. Il est là pour écouter quelqu'un, que ce soit par une écoute active, comme on a dit tout à l'heure, avec des silences, avec un temps dans lequel l'Esprit de Dieu peut révéler des choses. Il est là pour que les signes de la souffrance de quelqu'un, finalement, sortent et que le souffrant puisse en être conscient et en être convaincu. Donc, on voit que là, Daniel, je n'ai pas mis tout le chapitre 4, mais Daniel va raconter le rêve. Nebuchadnezzar raconte que ce rêve est expliqué et que donc Belteshazzar a été troublé par le songe et son interprétation et lui a dit, mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent et son interprétation pour tes ennemis. Autrement dit, ici, Daniel a été placé dans une situation délicate. Finalement, lui comprend le rêve, il sait de quoi il s'agit, et il est en train de parler au souverain, à celui qui est finalement empereur et despote dans l'ensemble de la terre connue, et il va lui dire que pendant un certain temps, son autorité va lui être enlevée, sa souveraineté va lui être enlevée, et peut-être que pour moins que ça, les gens ont eu, je ne sais pas, ont été torturés, la tête coupée, ou... voilà, en tout cas, Daniel risque la mort. Et donc, Daniel a ce courage, en fait, de dire, d'abord qu'il est, lui, troublé, et de dire, eh bien, mon Seigneur, que le songe soit pour ceux qui te haïssent, et son interprétation pour tes ennemis. Nous, en tant qu'accompagnants pastoraux, nous avons à avoir ce même courage. Parce que quelquefois, on entend des choses, et j'entends des choses quand les gens me racontent leurs cauchemars, un peu des choses toutes simples, comme dans un livre ouvert, où les gens n'ont pas, les gens qui souffrent n'ont pas la conscience, en fait, des difficultés qu'ils ont. Ils sont en train de me raconter leurs cauchemars, et moi j'en ai la conscience, et il faut que je leur dise, en fait, ce qui se passe dans leur vie. Et c'est pas toujours facile. Voilà. Mais il faut avoir ce courage, finalement, de poser les choses sur la table, sachant que nous, on n'est pas là pour plaire aux gens, on est là pour faire ce que le Seigneur nous appelle à faire. Alors, point 2, Daniel va raconter, il dit, l'arbre que tu as vu, c'est toi. On te chassera du milieu des hommes, ta demeure sera avec les bêtes des champs, on te fera manger l'herbe comme les bœufs, tu seras baigné de la rosée des cieux, 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Et quant à ce qu'on a dit de laisser le tronc des racines de l'arbre, ton royaume te demeurera quand tu auras connu que les cieux dominent. C'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable, romps avec tes péchés par la justice et avec ton iniquité par la compassion envers les affligés, si ce peut être un prolongement de ta paix. Alors, on pourrait prendre toutes les expressions et passer beaucoup de temps. On note avec les derniers mots, si ce peut être un prolongement de ta paix, que Nebuchadnezzar a dit dans le préambule de sa déclaration, premièrement, que votre paix soit multipliée, autrement dit, c'est important pour Nebuchadnezzar d'être en paix. Mais il a dit aussi, ensuite, quand il raconte ses difficultés, moi, Nebuchadnezzar, j'étais en paix dans ma maison. Et tout à coup, il a eu son cauchemar. Autrement dit, Daniel lui dit, si ce peut être un prolongement de ta paix, Daniel a toute cette délicatesse de l'accompagnant, en ayant entendu en fait quel est l'objectif du souffrant, et en répondant sur le canal, sur le créneau de l'objectif du souffrant. Nebuchadnezzar, je le répète, veut être en paix, et Daniel lui dit, voilà, si tu veux un prolongement de ta paix, j'ai entendu ce que tu m'as dit, donc je te réponds pour que ce que je te propose de faire aille dans le sens de ce que tu veux. Alors, qu'est-ce que Daniel est en train de dire à Nebuchadnezzar? Il lui a dit, l'arbre, c'est toi. Donc on se rappelle que cet arbre était immense, et donc une voix et l'ancien des jours demande que l'arbre soit coupé et enchaîné, mais que cette racine de l'arbre demeure, hein, le tronc et les racines demeurent. Autrement dit, il y a quelque chose qui est mystérieux pour Nebuchadnezzar. Le rêve est toujours quelque chose de mystérieux, mais Daniel comprend de quoi il s'agit. Alors, qu'est-ce qu'il faut penser des rêves ? Ecclésiaste 5, verset 3 nous dit quelque chose d'intéressant, c'est le songe ou le rêve vient de beaucoup d'activités. Personnellement, c'est quelque chose que j'ai vraiment vérifié. Non seulement les gens, donc je répète la référence, Ecclésiaste 5, verset 3, non seulement les gens qui me parlent de leurs rêves ou de leurs cauchemars me parlent de choses qu'ils ont vécues la veille, dans la semaine ou le mois dernier, mais des choses dans lesquelles leurs activités pèsent, en fait. Ils ont des difficultés, ils n'arrivent pas à trouver la porte de sortie, la perspective, l'épanouissement, la réussite de ce qu'ils sont en train de faire. Le songe vient de beaucoup d'activités. Autrement dit, le rêve, comme après Freud le fera avec son livre sur l'interprétation des rêves, le rêve est finalement, me semble-t-il, dans cette expression d'Ecclésiaste 5, verset 3, un langage de l'être particulier, je l'entends quand je dors, je le vois quand je dors, un langage de l'être qui va me parler, en fait, de cette activité qui, quelque part, me pèse, qui, quelque part, est souffrante pour moi. Le rêve vient de beaucoup d'activités. Donc, c'est pour ça que j'ai classé les rêves dans l'ensemble des signes que les personnes me communiquent. Quand je fais une étude de cas, quand j'écoute la personne en premier entretien, la plupart du temps, je lui demande si elle a des cauchemars. Et quelquefois, elle me dit oui, et quelquefois, elle me dit non. Quand elle me dit non, alors je ne les note pas. Je ne note pas non, la personne ne fait pas de cauchemars. Hein, parce qu'en fait, c'est plutôt des notes que je prends pour moi, plutôt que des notes que je prends pour enseigner, pour montrer à quelqu'un comment est-ce qu'il faut faire. Voilà pour les rêves. Donc, l'interprétation des rêves. Il est clair dans ce que vit Nebuchadnezzar que son rêve est interprété, mais le rêve est souvent interprété. Quand Joseph rêve, hein, il y a le soleil, la lune, les étoiles, hein, et il y a cette situation dans laquelle Joseph se trouve qui montre qu'effectivement, un jour, hein, son père, sa mère, ses frères se prosterneront devant lui. Hein, il y a donc quelque chose qui est symbolique et quelque chose qu'il y a lieu d'interpréter de la part de celui qui entend le rêve. Alors, quelles sont les clés d'interprétation ? Eh bien, si vous voulez lire des livres sur les clés d'interprétation, vous en trouverez autant que de personnes qui veulent écrire des livres. Personnellement, j'ai dans mon bureau un livre sur la clé d'interprétation des rêves, mais je ne l'ai jamais lu. Parce qu'en fait, j'ai lu les deux premières pages, mais je me suis rendu compte que j'en avais pas besoin, parce que chaque fois que quelqu'un me parle de son cauchemar, j'entends quelque chose qui correspond au vécu de la personne. Nous n'avons pas besoin de clés, nous savons qu'il faut interpréter, mais c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous conduire à voir en fait ce que la personne dit en tant que souffrance, en tant que circonstance, en tant que perspective qui s'ouvre à elle dans son rêve ou dans son cauchemar. Ici, donc, dans ce point 2, il y a des choses qui sont données par Daniel. L'arbre que tu as vu, c'est toi. On te chassera du milieu des hommes. Ta demeure sera avec les bêtes des champs. On te fera manger l'herbe comme les bœufs. Tu seras baigné de la rosée des cieux. Et 7 ans passeront sur toi jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. On note dans cette expression la finalité de la souffrance de Nebuchadnezzar, c'est que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Autrement dit, que tu connaisses la souveraineté de Dieu. Toi, Nebuchadnezzar, on le voit dans le reste du récit, dans Daniel 4, il dit « N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie ?» Autrement dit, Nebuchadnezzar, ce n'est pas quelqu'un à cette époque-là, à ce moment-là, quelqu'un qui est dans le sentiment de la souveraineté de Dieu et le sentiment qu'il est, lui, une créature de Dieu et un instrument dans sa main. Non, au contraire, c'est quelqu'un qui construit l'orgueil. C'est quelqu'un qui construit, moment après moment, l'orgueil sur les plans qu'il va se poser, qu'il va définir, sur le despotisme sur les gens, etc. Et donc, il entend quelque chose dans son cauchemar. Tout à fait intéressant de voir que même cette personne qui est placée à la plus haute place de l'échelle sociale est quelqu'un qui entend les choses de la part de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il nous est dit qu'il faut prier pour nos autorités ? 1 Timothée 2. On ne sait pas tout ce que ces gens vivent, en fait. Nous, quand on pense au président de la République, au gouvernement, au ministre, on dit de toute façon, ce sont des gens qui ont pour vocation de s'en mettre plein les poches. Je ne crois pas qu'on ait forcément raison de faire ça, de dire ça. Non, il faut au contraire honorer le roi, hein, comme dit Pierre hein, dans sa première épître, hein, honorer les autorités. Il faut qu'on ait conscience que ces gens-là ont peut-être des motivations plus ou moins bonnes, mais en tout cas, ils sont là pour servir, ils sont là pour faire un travail, et que dans ce travail, nous dit Romains 13, il n'y a pas d'autorité qui ne soit établie par Dieu. Dieu est donc en quelque sorte garant de tout cela. Dieu s'adresse aux autorités, et les autorités vivent des choses. On ne sait pas tout ce qui peut se passer, justement, dans la nuit ou de différentes manières, tout ce que ces autorités peuvent connaître, ressentir de terrible, en fait, et de terrible dans leur rapport direct à Dieu. Daniel va donner, oui.
Par rapport au rêve, est-ce que, quand vous voyez des personnes, est-ce que tout rêve est interprétable? Ou est-ce que c'est vraiment des rêves récurrents ou des choses en particulier?
Il faut, je ne vais pas répondre à est-ce que tout rêve est interprétable. J'y réponds pas de manière générale. Parce qu'en fait, tout est cas particulier. Quand je ne comprends pas l'interprétation, eh bien je dis, ben voilà, pour l'instant, ce rêve ne me parle pas. Mais peut-être qu'il va me parler 3 jours après. Donc, et peut-être que Dieu veut que la personne soit chargée par le rêve, qu'elle fasse des cauchemars, mais que sa souffrance soit suffisamment importante pour que, en fait, pour qu'elle réagisse. Hein, donc, et là, il y a une clé, en fait. Alors, il ne faut pas qu'on soit nous dans la facilité en disant, de toute façon, j'ai toujours raison. Hein, je ne comprends pas le rêve aujourd'hui, donc ça doit être parce que Dieu vous laisse dans la souffrance. Non, à ce moment-là, on ne dit rien. Hein, on est là, tranquillement, on peut... Il n'y a rien de plus désagréable et affreux que cet accompagnant pastoral qui se prend pour le prophète et qui a toujours raison. Et non, on est petit, on est humble avec, on souffre avec, on attend, en fait, on fait du cheminement et on espère dans la manifestation de l'Esprit de Dieu dans les circonstances. Alors, Daniel donc, continue en disant, et quant à ce qu'on a dit, l'ancien des jours a dit, de laisser le tronc des racines de l'arbre, ton royaume te demeurera quand tu auras connu que les cieux dominent. Quand tu auras connu que les cieux dominent. Voilà encore la finalité. On a vu la finalité de ce que vient Nebuchadnezzar. Jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes, et quand tu auras connu que les cieux dominent. Hein, donc la finalité, c'est de mieux connaître Dieu. On pourrait dire que dans toute souffrance, le problème n'est pas tant que nous souffrons, le problème c'est qu'on ne connaît pas Dieu. Si on était vraiment à notre place et en faisant ce que Dieu nous demande, alors on pourrait dire qu'on ne souffrirait pas de nos souffrances. On serait dans nos souffrances en train de faire ce que Dieu nous demande et en train d'en réaliser la pleine portée et la pleine réalité. Finalement, on souffrirait parce que la vie est difficile, parce qu'on construit quelque chose dans une dynamique qui coûte. Hein, tout ce qui a de la valeur coûte. Alors, on y va et c'est normal. Mais par contre, on ne souffre pas de souffrances ajoutées, d'inquiétudes qu'on va se donner, de colère contre soi, de culpabilité desquelles on ne peut sortir, etc. On voit dans ce que Daniel dit à Nebuchadnezzar, quand tu auras connu que les cieux dominent, on voit un cap que Daniel donne de manière très claire. Il s'agit, nous, de donner un cap aux gens qui souffrent. Ce cap, le cap que je vais vous proposer est trop général. Quand tu auras connu que les cieux dominent. Mais c'est pourtant ce que Nebuchadnezzar va dire, en fait, hein, dans la fin de ce texte, il va dire qu'ils connaissent ce Dieu. Hein, mon intelligence me revint, je bénis le Très-Haut et je louais et magnifiais celui qui vit éternellement. Autrement dit, il a fait une expérience de connaissance de Dieu. Et on peut voir que dans les six souverains qui ont régné pendant les 70 ans, hein, grosso modo entre 606 et 536 avant Jésus-Christ, ces 70 ans de transportation du peuple d'Israël, des six souverains qui ont vécu, Nebuchadnezzar, je crois que son règne a été environ de 42 ans, 42, 45 ans. Il a régné très longuement. Et on peut se dire, mais c'est peut-être quelqu'un qui a fait justement l'expérience d'une relation avec Dieu véritable et qui finalement l'a amené à bien régner. Alors, on note dans la bouche de Daniel, c'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable, romps avec tes péchés par la justice et avec ton iniquité par la compassion envers les affligés, si ce peut être un prolongement de ta paix. Autrement dit, voilà un Daniel qui ne craint pas de dire au roi de manière très carrée ce qu'il a à faire. On se souvient que beaucoup plus tard, Jean-Baptiste a dit à Hérode que, en fait, la femme qu'il avait n'était pas sa femme. Et du coup, et Jean-Baptiste a été décapité. Hein? Donc, on voit que la position de Daniel ici n'était pas une position confortable. Hein? Je crois que dans la pratique pastorale, c'est toujours un peu comme ça. En fait, si on va, même si on prend le temps pour y aller, même si on prend tous les égards, si on le fait avec la personne, alors il arrive que la personne ne soit pas du tout contente, en fait, de ce qu'elle découvre. Et de ce fait, qu'est-ce qu'elle va nous dire? Elle va nous dire, ben, je ne viens plus vous voir, vous n'êtes pas un bon pasteur, etc. Bon, il peut y avoir des choses comme ça qui se passent, mais ça, ce n'est pas notre responsabilité. Notre responsabilité, c'est de faire ce que Dieu nous demande. Dans ce deuxième point, Nebuchadnezzar entend donc à la fois ce qui relève de sa responsabilité et ce qui relève de la volonté de Dieu. Autrement dit, quel est ce qui relève de la responsabilité de Nebuchadnezzar? C'est tout ce qui touche à son royaume. Et qu'est-ce qui est de la volonté de Dieu? C'est en fait qu'il se repente. Autrement dit, le cauchemar qu'il a eu est un avertissement. Nebuchadnezzar aurait pu ne pas tomber dans la maladie mentale. Hein, puisqu'il a été quand même malade mental pendant 7 ans, et il faudra qu'on dise quelque chose de la maladie mentale, on le dira au point 4.
Vous dites que le roi entend ce qui relève de sa propre responsabilité et de la responsabilité de Dieu?
Non, de sa propre responsabilité, de la volonté de Dieu. Ouais. Hein, c'est ce qui est noté dans la parenthèse en italique. Hein, de la volonté de Dieu. Autrement dit, Dieu lui dit, voilà, si tu... Comme le dit Daniel, c'est pourquoi, ô roi, que mon conseil te soit agréable, romps avec tes péchés par la justice et avec ton iniquité par la compassion envers les affligés. Notez bien ces deux aspects. Hein, le fait de ne pas faire ce qui est juste, hein, les péchés, et le fait de faire finalement ce qui est l'iniquité, le dévoiement, le fait de ne pas avoir de compassion à l'égard des affligés. Ce n'est pas tout à fait dans le sujet, mais en grec, peut-être qu'on peut noter la différence entre anomia et amartia. Hein, anomia, c'est finalement la transgression de la loi, l'absence de loi, hein, le péché, anomia, qui est plutôt appelé transgression, plutôt traduit par transgression, et amartia, qui pourrait venir de méros, qui signifie partage, ou profit. Ou héritage. Hein, et donc, amartia, le péché, là, c'est l'absence de profit. Autrement dit, il y a dans le péché quelque chose qui relève de l'absence, de l'éloignement de la loi et de la transgression, et d'un autre côté, de l'éloignement du profit. Le péché ne nous profite pas. Hein, voilà, ça peut être intéressant d'entendre ça. Et on l'entend... là, je ne me souviens pas des mots en hébreu sur péché et iniquité, mais voilà, il y a des choses qui peuvent être intéressante à noter. Romps avec tes péchés par la justice. Autrement dit, dans ce que tu fais en transgression par rapport à la loi de Dieu, et avec ton iniquité, par la compassion envers les affligés, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton comportement à l'égard de ces gens-là. Donc on voit que tout cela arrivera au roi Nebuchadnezzar. Et pourquoi est-ce que ça arrive? D'après ce qu'il nous raconte, parce qu'il n'a pas tenu compte de ce dont Daniel lui parlait. Point 4, au bout de 12 mois, il y a donc 12 mois qui se passent entre le cauchemar qu'il a vécu et le moment où Nebuchadnezzar devient fou, le roi prit la parole et dit, n'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie pour être la maison de mon royaume par la puissance de ma force et pour la gloire de ma magnificence. Notez comment finalement Nebuchadnezzar, 12 mois après, montre son projet. Il dit, il prend la parole et il dit, certainement à ceux qui sont avec lui, n'est-ce pas ici Babylone la Grande que j'ai bâtie. Alors en fait, que j'ai bâti, c'est un peu fort quand même, hein, parce que certainement, c'est pas lui qui a bâti Babylone, lui, il a fait bâtir Babylone. Hein, Babylone que j'ai bâti pour être la maison de mon royaume par la puissance de ma force et la gloire de ma magnificence. On pourrait dire que Nebuchadnezzar a un ego qui est vraiment surdimensionné. Tout son projet, c'est moi. On va prendre quelques minutes pour parler de la réalité de cet ego. Si je vais rencontrer quelqu'un, je suis le précepte qu'on va appeler évangélique, qui est « aime ton prochain comme toi-même », hein, une citation de Deutéronome 7, 8 ou 9, je ne sais plus. Autrement dit, si on a ça comme cap, si mon but c'est d'aimer mon prochain, alors en aimant mon prochain, en rentrant en connaissance, en respect, en considération, dans une perspective de collaboration, dans une perspective de découverte de ce que ce chemin commun va donner, alors je n'ai pas moi au centre en fait. Non, je suis content d'aller connaître mon prochain. Au contraire, si par exemple, je vois mon prochain le plus proche qui a un ordinateur Samsung, et moi que j'ai un ordinateur Apple, et que je suis rempli de Apple, je dis Apple c'est ce qu'il y a de mieux, etc., et je vais lui dire que Samsung c'est vraiment de la merde, excusez-moi de l'expression, je vais être plein de moi en fait. Et si on a un échange en fait, et qu'on est en train d'échanger sur nos ordinateurs, en fait, tout ce que je vais penser va respirer. Et du coup, notre relation ne va pas être bonne. Voilà. Mais des situations comme ça, il y en a 50 000. Sur la manière dont on parle, la manière dont on s'habille, la manière dont on mange, sur la manière dont on commente la Bible, sur la manière dont on va vivre en fait un cursus d'étudiant à la faculté de théologie, sur le ministère qu'on va prendre. Ah, toi, tu vas prendre un ministère de traduction biblique. Bon. Hein, voilà. Autrement dit, on est toujours dans un, on risque toujours de tomber dans un moi au centre, alors qu'en fait, il ne faut pas avoir moi au centre, il faut avoir l'autre au centre. C'est l'autre qui est intéressant. C'est l'autre qui fait que en fait, entre moi et l'autre, il y aura une relation qui sera véritablement porteuse d'amour. Et comme dit 1 Corinthiens 13, versets 2 et 3, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien et cela ne me profite de rien. C'est étonnant de voir comment, non seulement chez les chrétiens, mais chez les chrétiens responsables, je ne parle pas de vous, hein, je parle de ce que je vois dans les églises, il y a, mais de manière manifeste, de manière évidente, un manque d'amour qui fait que même dans un collège d'anciens dans les églises, en fait, le conseil presbytéral va se retrouver, mais ils ne peuvent pas se blairer. En fait, comment voulez-vous que ça marche ? Hein? Et donc, en fait, à nous de ne pas tomber dans ce panneau. À nous de ne pas faire comme Nebuchadnezzar, qui construit sa vie personnelle sur un moi qui est vraiment débile. En fait, c'est une construction débile, c'est quelque chose qui ne tient pas la route. Et à nous de toujours respecter notre prochain. Ce qu'on va dire à notre prochain, c'est pour le respecter, c'est pour l'accueillir, c'est pour lui donner de l'importance, pas le surévaluer, pas lui faire du bien en le valorisant, non. Moi, je ne suis pas trop pour les paroles valorisantes. Je suis pour aimer. Je ne cherche pas à vous faire plaisir, je cherche à vous aimer, c'est pas pareil. Dans le couple, on ne cherche pas à faire plaisir à l'autre. On ne cherche pas à plaire à son conjoint, on cherche à l'aimer. Nebuchadnezzar construit sa vie sur le moi, moi, moi. Alors, il est dit, la parole était encore dans la bouche du roi, qu'une voix tomba des cieux. Roi Nebuchadnezzar, il t'est dit, le royaume s'en est allé d'avec toi, et on te chassera du milieu des hommes, et ta demeure sera avec les bêtes des champs, on te fera manger de l'herbe comme les bœufs, et 7 ans passeront sur toi, jusqu'à ce que tu connaisses que le Très-Haut domine sur le royaume des hommes et qu'il le donne à qui il veut. Là, on peut dire que dans ce chapitre, c'est répété plusieurs fois. Hein, c'est dit par Daniel, c'est dit par la voix de l'Ancien des Jours, et ensuite, ça va être dit par Nebuchadnezzar, qui effectivement relatera et dira qu'il a compris que Dieu domine et qu'il est souverain. Alors, la parole était encore dans la bouche du roi. Autrement dit, on pourrait dire que dans nos difficultés personnelles, certainement, cette place du moi au centre de mes projets, elle est tellement importante qu'elle me fait souffrir et que quand je comprends, en fait, avec ces 3 clés, par la souffrance, qu'en aimant l'autre, en respectant l'autre, en allant vers l'autre, en fait, c'est là où je ne me fais plus souffrir. Alors quand on le comprend, qu'on le met en œuvre, alors on est bien. Et c'est là où on peut vraiment être bien et apporter à l'autre, alors qu'on est souvent en recherche de considération de la part de l'autre, ou d'acceptation, ou d'accueil, etc. La parole est encore dans la bouche du roi. Au même instant, la parole s'accomplit sur Nebuchadnezzar, il fut chassé du milieu des hommes, il mangea de l'herbe comme les bœufs, son corps fut baigné de la rosée des cieux, jusqu'à ce que ses cheveux fussent devenus longs comme les plumes de l'aigle et ses ongles comme les oiseaux des cieux. On pourrait dire que cette description-là est une description qui montre des désordres. Hein, il est chassé du milieu des hommes. Pourquoi ? Ben certainement parce qu'en fait, son comportement est un comportement qui n'est pas acceptable du point de vue sociologique, du point de vue de la préservation de la société. Ensuite, il est dit, il mange de l'herbe comme les bœufs. Autrement dit, il y a quelque chose qui change dans son regard sur lui-même et sur ce qu'il doit faire. Il mange de l'herbe comme les bœufs. Son corps fut baigné de la rosée des cieux. Autrement dit, peut-être qu'il passe son temps dehors. Est-ce que c'est debout à 4 pattes? On ne sait pas trop. Hein. Et il est dit, il ne s'occupe pas de se couper les cheveux, de se faire les ongles. Autrement dit, il est dans une démarche de ne pas s'occuper de lui-même, hein, de changer complètement son comportement, et on pourrait dire qu'il est rentré dans un épisode de maladie mentale, hein, où quelque chose change de manière très forte, et donc Nebuchadnezzar a ce changement de comportement qui devient, du point de vue de la société, un problème. On pourrait dire que il n'y a pas si longtemps que ça, il y avait des camisoles de force, et que maintenant, il y a une camisole chimique, hein, et où on fait que les gens ont un comportement acceptable en faisant qu'ils prennent des médicaments et en leur permettant, dans un sens, de rester quelque peu dans la société, quoique beaucoup sont dans des hôpitaux psychiatriques, dans des endroits qui sont fermés. Je ne sais pas si vous êtes rentré dans un hôpital psychiatrique, c'est assez particulier comme expérience. Moi, j'y suis allé plusieurs fois. Donc, quand vous rentrez, on vous ferme à clé. C'est fermé à clé. Vous êtes avec des gens, justement, qui ont ces désordres et qui vous regardent de manière bizarre, qui vous parlent, qui s'adressent à vous de manière curieuse. Ça peut être violente, ça peut être, etc. Bon. Et donc, je voudrais insister sur le fait que dans ce chapitre, Nebuchadnezzar donne son témoignage. Il a dit au début, il m'a semblé bon de faire connaître les signes et les prodiges que le Dieu Très-Haut a opérés à mon égard. Autrement dit, je suis devenu un malade mental. Mais c'est un signe et un prodige que le Dieu Très-Haut a opéré à mon égard. trouve ça étonnant. Étonnant de penser que... Alors souvent, vous demanderez un peu autour de vous, si les gens sont bien d'accord et bien éventuellement disposés à vous parler de leur vie et à parler des épisodes douloureux qu'ils ont eu dans leur vie. Alors ils vont vous dire pourquoi. Parce qu'en fait, c'est important, hein, si quelqu'un a 20 ans de plus que vous, il peut très bien vous parler de ces épisodes douloureux. Pourquoi ? Mais pour que vous, vous puissiez tirer profit, en fait, de ne pas tomber au même endroit. Ça paraît quand même simple et logique. Hein, et c'est ce que fait Nebuchadnezzar, c'est ce que fait, par exemple, un David dans le psaume 37, je crois, quand il parle de sa colère, de sa culpabilité, etc., et qu'il montre que par la confession, ou dans le psaume 51, comment est-ce que par la confession, en fait, il s'est sorti de quelque chose. Et il va dire, tant que je suis tu, mes os ont dépéri. Ça, c'est le témoignage du roi, c'est grand. Eh bien, ici, on a le témoignage d'un roi qui va dire, voilà ce que je suis devenu un gros égoïste, un mégalomane, et à un moment donné, je suis tombé dans la folie, et cette mégalomanie m'a fait tomber dans la folie. Alors là, je vais faire une petite parenthèse qui n'est pas une parenthèse médicale puisque je ne suis pas médecin. C'est pour ça que je vous ai proposé comme lecture obligatoire la lecture de Pfeiffer qui est médecin, qui est psychiatre. Mais dans la médecine, on dit, dans la psychiatrie, on dit qu'il y a globalement deux sortes de maladies mentales, la névrose et la psychose. Que quelque part, nous sommes tous névrosés. Autrement dit, nous avons tous des difficultés personnelles qui peuvent être guéries, améliorées, en fait, par des soins particuliers. Mais la psychose est quelque chose qui a été névrose et psychose. La psychose est quelque chose qui touche l'individu très, très profond, dans ce que les psychiatres appellent le noyau narcissique, quelque chose qui est arrivé dans les 6 premières années de la vie de l'enfant. Et donc, il y a une réalité médicale de dire, voilà, on ne guérit pas d'une psychose. Et par exemple, la psychose maniaco-dépressive, quand quelqu'un a des phases maniaques d'excitation, des phases de dépression, d'abattement, avec des périodes de des périodes particulières, hein, on a pendant 6 mois une phase d'excitation, et ensuite pendant 6 mois une phase d'abattement. Alors, la psychiatrie moderne dit... aujourd'hui, qu'on ne guérit pas de cette psychose-là. Hein, la psychiatrie dit, par exemple, que la phobie est quelque chose qui touche également à la structure profonde de l'être et qu'on peut réguler un phobique, mais qu'on ne peut pas tellement l'en faire sortir, la schizophrénie ou d'autres choses de ce genre. Alors, moi, ce que je vois dans l'exemple de Nebuchadnezzar, c'est qu'il est montré que pendant 7 ans, il est rentré dans la maladie mentale. Mais je crois que c'est bien clair que chez Nebuchadnezzar, cette maladie mentale n'est pas venue de nulle part. On voit que Nebuchadnezzar a été averti. On voit qu'avec le songe, Daniel lui a dit 12 mois auparavant, romps avec les péchés et avec l'iniquité. Autrement dit, il y a un ensemble de choses que Nebuchadnezzar pense, dit, fait, qui, s'il ne les avait pas dites, aurait fait qu'il ne serait pas rentré dans cette maladie mentale. Puisque ce rêve tient lieu d'avertissement. Et Daniel va dire, c'est pourquoi au roi que mon conseil te soit agréable. Le conseil lui a pas été agréable, et 12 mois après, il a un épisode de folie pendant 7 ans. Alors, je pense que c'est important de voir, nous en tant qu'accompagnants pastoraux, de voir que finalement... ici, il nous est montré de manière explicite que rien ne vient au hasard, que Dieu nous appelle à comprendre les choses et à rentrer dans la cohérence du projet de Dieu. Quand quelqu'un construit sa vie sur son moi, sur son ego, sur le fait qu'on lui donne, qu'il possède, etc., alors il n'est pas étonnant que quelque part, toute cette construction aboutisse à quelque chose de terriblement néfaste et aboutisse à des maladies que la psychiatrie va appeler dépression, va appeler ici psychose maniaco-dépressive ou autre chose. Alors, Que faut-il faire, nous, quand nous avons quelqu'un, moi j'en ai eu quelques-uns, une dame dont le prénom est Nathalie, vous voyez, je ne donne pas de... Hein, mais pour vous dire que cette dame, je la connais, je l'ai suivie pendant 7-8 mois, et elle est venue, elle avait une psychose maniaco-dépressive depuis 8 ans. Et elle est venue, elle m'a dit, je suis en phase maniaque actuellement. Et bon, apparemment, il n'y a pas tellement de solutions. Je lui ai dit, écoutez, nous, de toute façon, on ne va pas du tout agir au niveau médical. Je lui ai dit, en tant que suivez bien votre psychiatre, continuez à prendre vos médicaments. Ce n'est pas notre problème, les médicaments. Dans un sens, heureusement qu'on a les médicaments. Mais nous, on va faire ce qu'il faut du point de vue spirituel, du point de vue de la relation à Dieu, pour que des choses puissent se faire. On a prié, on a parlé de différentes choses. Eh bien, j'ai son témoignage écrit, même sur mon ordinateur, hein, où aujourd'hui, elle est venue me voir en septembre, elle m'a dit, écoutez, monsieur, apparemment, je suis guéri. Voilà. Donc, je ne fais pas du tout de ça une généralité. Hein. C'est quelqu'un que j'ai eu en septembre qui m'a dit ça. Mais je dis que il faut que nous fassions attention, d'un côté, à beaucoup respecter le travail des médecins. Mais d'un autre côté, à ne pas forcément rentrer dans l'arbitraire de la déclaration du psychiatre, qui dit on ne guérit pas d'une psychose. Voilà. Et ce week-end, samedi, j'étais de mariage, et j'ai parlé pendant 2 heures avec un psychiatre de Lyon, un psychiatre chrétien, et je lui ai demandé presque à genoux, hein, j'étais vraiment, je lui ai dit merci au monde médical, mais je lui ai dit, mais est-ce que tu peux être d'accord, parce qu'on se connaît, pour dire que dire qu'on ne relève pas d'une psychose, ça peut être arbitraire. Alors il m'a dit oui. Bon. Mais sachant qu'on rentre dans un domaine terriblement fragile. Pourquoi? Parce que la plupart des gens qui ont une psychose, ils savent que les médicaments régulent, mais qu'on ne guérit pas. Et donc en fait, ils vont peut-être venir nous voir, mais en sachant qu'on n'en guérit pas. Autrement dit, c'est dire si l'enseignement dans les églises doit être bien ciblé pour ne pas aller contre la pratique médicale, mais pour proposer à ceux qui sont blessés de faire quelque chose. Vous voyez, d'avoir une démarche. Hein, Épître de Jacques, chapitre 5, si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens de l'Assemblée. Il faut qu'il y ait une démarche. Hein, il faut qu'il y ait une démarche collective et que l'Église se positionne, hein, et qu'il se passe quelque chose. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à la maladie mentale. On va continuer avec ce récit et on va voir comment, point 5, il y a un retour et un relèvement. Alors Nebuchadnezzar continue son témoignage et il dit « J'ai levé mes yeux vers les cieux. » Alors on va lire le texte. « Et mon intelligence me revint, et je bénis le Très-Haut, et je louai, magnifié, celui qui vit éternellement, duquel la domination est une domination éternelle. » Et dans le royaume et de génération en génération, tous les habitants de la terre sont réputés comme néant. Il agit selon son bon plaisir dans l'armée des cieux et parmi les habitants de la terre. Et il n'y a personne qui puisse arrêter sa main et lui dire « Que fais-tu ?» Voilà une première partie de ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'on entend? Il dit « J'ai levé mes yeux vers les cieux. » Voilà, voilà pour moi la clé. La troisième clé, clé volonté de Dieu, j'ai levé mes yeux vers les cieux. Autrement dit, c'est à nous de proposer à quelqu'un qui est considéré comme malade mental d'avoir une démarche de foi journalière, ponctuelle, systématique, d'écouter l'Esprit de Dieu, d'écouter en fait ce que Dieu appelle à faire. Hein, qui est dans un sens de se dire, mais l'important ce n'est pas que je ne passe pas par une circonstance douloureuse. L'important c'est que je sache que faire, qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire dans une circonstance douloureuse. Est-ce que vous voyez la différence? Elle est fondamentale, elle est énorme. En fait, ce qui fait mon bonheur dans la vie, ce n'est pas de ne pas avoir de circonstances douloureuses. C'est de savoir qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire dans ces circonstances-là. C'est ça, j'ai levé mes yeux vers les cieux. Peut-être que, justement, le problème de Nebuchadnezzar est d'être complètement centré sur lui-même. Vous voyez comment je cible le nombril, hein, avec mon geste. finalement un homme qui passe son temps à essayer de satisfaire son ego, et à un moment donné, il détourne son regard de lui-même pour le tourner vers les cieux. Un acte de foi, un acte d'ouverture, un acte qui permet l'illumination, qui permet en fait l'irruption de Dieu en moi, qui permet que mon esprit soit un organe vivant. Hein, je crois que Romains 6, 11 dit « Tenez-vous vous-même vivant à Dieu. Hein, » Éphésiens 2, 3 dit « Vous étiez morts dans vos fautes et dans vos péchés. » Autrement dit, vous étiez morts spirituellement. Votre esprit était un organe mort, un organe existant. Tout le monde a un esprit. Mais il peut être mort ou il peut être vivant au monde occulte. Hein? Mais l'esprit, c'est, nous dit Proverbe 20, verset 27, l'esprit de l'homme est une lampe de l'Éternel. Elle sonde les profondeurs de l'âme. Autrement dit, l'esprit, c'est ce qui doit être vivant à Dieu. J'ai levé mes yeux vers les cieux, et qu'est-ce qui se passe? Mon intelligence me revint. C'est quoi l'intelligence? C'est la faculté de comprendre. Trois choses sont données, par exemple, à Betsaléel, dans Exode 35, pour la construction des ustensiles de cette grande tente, hein, le tabernacle, c'est l'intelligence, la connaissance et la sagesse. Trois choses. La connaissance, c'est le matériau. L'intelligence, c'est la compréhension. Et la sagesse, c'est la faculté d'utiliser pour le bien ou pour le mal. Pour faire une table comme ça, il me faut de l'aggloméré mélaniné. C'est le matériau. Mais pour travailler, il faut aussi du métal pour faire les pieds, et des vis pour faire tenir, etc., et de la colle. Et donc, en fait, pour fabriquer une table, il faut de l'intelligence, il faut que je comprenne, en fait, comment est-ce que je peux faire pour fabriquer cette table. Mais par contre, quand je vais utiliser la table, je peux l'utiliser pour le bien ou pour le mal. Et ça, c'est la sagesse. Le matériau nous est donné par Dieu. L'intelligence procède de Dieu. Hein, Luc 24, 45, le Seigneur Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures. Autrement dit, l'intelligence ne vient pas forcément à la faculté de théologie pour la compréhension des Écritures. L'intelligence procède de Dieu. Dans la faculté de théologie, on va développer cette faculté de se tenir dans la présence de Dieu pour comprendre les Écritures. On va la développer en se tenant près de personnes qui ont, en fait, qui se sont tenues devant Dieu et qui ont compris des choses. Mais ces personnes-là vont développer votre intelligence. Et alors la sagesse procède également de Dieu, les matériaux procèdent de Dieu, la connaissance, l'intelligence procède de Dieu, la sagesse procède de Dieu. Hein, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Et donc la sagesse, c'est la faculté d'utiliser quelque chose pour le bien et non pas pour le mal. Et donc, Nebuchadnezzar, son intelligence lui revient. Autrement dit, tout à coup, les choses deviennent compréhensibles. C'est la vérité qui rend libre. Jean 8, verset 32, « Si vous êtes mes disciples, vous persévérez dans ma parole, et la vérité vous rendra libre. » Romains 6, verset 17, « Vous étiez esclaves du péché, mais vous en avez été libérés. » Comment ? « En obéissant de cœur à la forme de doctrine dans laquelle vous avez été enseigné. » C'est la vérité qui rend libre. Dans la pratique pastorale, il n'y a pas que la gentillesse, il n'y a pas que l'écoute, il y a aussi la révélation de la vérité de Dieu qui amène à être libre. Ça, c'est quelque chose d'essentiel.
La dernière
Romains 6, 17. Et dans la pratique pastorale, on trouve des gens qui sont d'une gentillesse, d'une patience, d'une douceur, mais qui manquent de vérité. Ou des gens qui sont beaucoup dans la vérité, dans la connaissance, mais qui manquent de gentillesse, de patience et de douceur. À nous d'entrer dans une véritable dimension d'amour, qui est le fait d'accueillir quelqu'un, mais comme dit l'apôtre Jean, hein, soit à la dame élue en deux Jean, hein, ses enfants qu'il aime dans la vérité, aimer dans la vérité. Autrement dit, quand on aime, on n'a pas peur de se dire la vérité. Alors, on voit un Nebuchadnezzar qui témoigne de ça. « J'ai élevé les yeux vers les cieux, mon esprit est devenu vivant à Dieu et mon intelligence m'est revenue. » Autrement dit, c'est ça la pratique pastorale, c'est la mise en œuvre de la dimension spirituelle, je deviens vivant à Dieu, mais il n'y a que le souffrant qui puisse le faire. Et après, il y a la dimension intellectuelle, je comprends quelque chose. Alors attention à ne pas négliger l'une ou l'autre de ces deux dimensions. Il le répète, au milieu du passage, « Dans ce temps-là, mon intelligence me revint, et pour la gloire de mon royaume, ma magnificence et ma splendeur me revinrent, mes conseillers, mes grands me cherchèrent, et je fus rétabli dans mon royaume, et ma grandeur fut extraordinairement augmentée. » Mais il dit maintenant, « Moi, Nebuchadnezzar, je loue et j'exalte et je magnifie le roi des cieux, dont toutes les œuvres sont vérités, les voies jugement, et qui est puissant pour abaisser ceux qui marchent avec orgueil. » Autrement dit, il reste conscient qu'il y a une œuvre qui lui est propre, qui lui est personnelle, dans laquelle il doit s'impliquer, c'est mon royaume, ma magnificence, ma splendeur, mes conseillers, mes grands, ma grandeur. Mais il dit, au centre de tout ça, il y a le roi des cieux. Alors, qu'est-ce que je vous propose de retenir dans cet exemple de Nebuchadnezzar ? D'une part, qu'il y a un terrain qui prédispose. Ce terrain, c'est le terrain de la mégalomanie et essentiellement du manque d'amour. Que, à l'occasion de la construction de ce terrain, qu'il y a des signes, cauchemars par exemple, et donc qu'on devrait tous, indépendamment de l'accompagnement pastoral, tenir compte de ces signes. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Par exemple, sans trop entrer dans les détails, je vous dis par expérience, de différentes manières, que la constipation est un signe de peur et que la diarrhée est un signe de colère non abouti. Voilà, vous l'entendez, et puis ça fera son chemin. Et la constipation est un signe de peur, je retiens, en fait, et la peur vient, mais on le verra quand on verra les émotions, de la dévalorisation de soi, de ne pas croire que j'ai les capacités de faire ce que Dieu me demande. Voilà, les signes. Et donc, Nebuchadnezzar entend ces signes, mais par contre, il n'en tient pas compte. Et donc, à nous de tenir compte, en fait, du langage de Dieu, du langage du corps. 1 Corinthiens 6,20 nous dit « Glorifiez Dieu dans votre corps ». Autrement dit, la gloire grecque doxa, c'est la manifestation. Ça vient de dokeo, qui veut dire paraître, manifester. Donc, on entend que le corps manifeste quelque chose. Manifestez Dieu dans votre corps. Autrement dit, dans notre corps, on est appelé à montrer Dieu et à montrer Dieu dans le bon fonctionnement de notre corps. Et quand ça ne marche pas bien, on se pose des questions. Glorifiez Dieu dans votre corps. Autrement dit, ces signes que nous pouvons avoir sont des signes qui nous interpellent. Comment est-ce qu'on va finalement aider quelqu'un qui tombe dans une maladie, qui tombe dans un long temps, sept ans, dans une longue période finalement de désordre? Eh bien, on l'aide à ce qu'il lève les yeux vers les cieux et on attend que son intelligence revienne.